قد الشاب خالد. خطيت الغربة وليدات زين وليدات وهرم. أمان 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 يا 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 أمان. الغربة 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 صعيبة ونكار. ومن بعد ومن بعد الغربة ما بقات صحبة ولا محبة. يعني ما بقات صحبة ولا محبة
à Paris, 4h, en temps universel. Merci d'écouter RFI. Une nouvelle demi-heure d'infos. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Arthur Ponchelet.
À la une, Israël poursuit ses frappes sur Gaza malgré l'annonce d'un accord.
Donald Trump avait présenté jeudi cet accord sur un désarmement du Hamas dans l'enclave ainsi que d'un retrait progressif israélien. Israël n'a toujours pas réagi et reste donc engagé sur plusieurs fronts, à quelques mois des législatives où la campagne se tend, tout comme le climat social. 350 000 Haïtiens menacés d'expulsion aux États-Unis, le TPS, le statut de protection temporaire qui les concernait, a expiré en début de semaine. Une manifestation de soutien a eu lieu hier à New York. Au Sénégal, les Mourides se rassemblent à Touba pour le Grand Magal. C'est l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Et puis Lorena Vibes en jaune. Sur les rives du Léman, la Néerlandaise a remporté la première étape du Tour de France féminin. Le Tour de France qui reste en Suisse pour l'instant, pour le plus grand plaisir des Helvètes, on va l'entendre. Au Moyen-Orient, la menace de nouvelles frappes sur l'Iran, des frappes israélo-américaines étaient prévues, assure Donald Trump, mais elles ont été suspendues à la demande de Téhéran et d'autres pays. C'est toujours ce que dit le président américain qui réclame toujours un accord pour mettre fin aux hostilités. Donald Trump qui a bien annoncé un accord jeudi, mais sur Gaza. L'accord prévoit le désarmement du Hamas dans l'enclave palestinienne contre un retrait de l'armée israélienne. Si le Hamas a donné son feu vert, Israël n'y a toujours pas réagi officiellement et poursuit ses frappes à Gaza. 8 personnes ont été tuées cette nuit dans plusieurs villes. Les frappes sont quotidiennes à Gaza, au Liban. À quelques mois des législatives en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou veut montrer qu'il contrôle la situation. Mais dans cette campagne, justement, une fracture s'aggrave de plus en plus. En Israël, celle entre les religieux et les laïcs. Hier, des ultra-orthodoxes, des Haredim, ont manifesté autour d'un café resté ouvert pendant Shabbat. À Jérusalem, le reportage de Michel Paul.
Shabbat, Shabbat, hurlant yiddish, les ultra-orthodoxes, c'est le son de la fracture religieuse qui résonne en plein cœur de Jérusalem. Rue Agrippas, la tension a franchi un nouveau cap. Des dizaines de manifestants haredim ont forcé les barrages policiers pour tenter d'investir le café Bessimta, ouvert le samedi. Face à eux, les clients ont dû former un véritable rempart humain pour protéger l'établissement. Face aux coups de matraque de la police débordée, la bataille pour l'identité de la ville sainte ne se joue plus seulement dans les urnes, mais à la terrasse des cafés. Et à quelques mois des élections, l'affaire est immédiatement devenue une tribune politique. Sur place, Avigdor Lieberman, ancien ministre de la Défense, et un des candidats de l'opposition.
Il est impensable que boire un café le samedi matin devienne un acte de bravoure civile. Ce vandalisme que nous voyons derrière moi prouve que ces gars-là devraient canaliser cette énergie contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre les Houthis.
Tandis que les partisans de la laïcité promettent de continuer à venir boire leur café chaque samedi, les partis religieux, eux, entendent bien faire du respect du Shabbat le test décisif du futur gouvernement. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Aux États-Unis, des dizaines de milliers d'Haïtiens risquent d'être expulsés. Lundi, le TPS, le statut de protection temporaire accordé aux Haïtiens, a expiré. La Cour suprême a validé le mois dernier un décret pris en ce sens par Donald Trump. Auparavant, ces Haïtiens étaient autorisés à venir travailler aux États-Unis depuis le séisme de janvier 2010. Ces Haïtiens sont donc désormais illégalement présents sur le territoire américain. Une manifestation de soutien avait lieu hier soir à New York. Gwendal Lavina y était.
Les slogans scandés par la foule sont en anglais. Pas de haine, pas de peur, les migrants sont les bienvenus ici. Mais sur les pancartes, on peut lire, écrit en créole cette fois, travail pour tous et fin des déportations. Au micro, Victor explique l'importance du rassemblement.
On se rend compte du besoin de défendre nos familles, nos amis, nos voisins pour avoir un peu de tranquillité d'esprit, car ce n'est pas le cas actuellement.
350 000 Haïtiens sont concernés par la fin du TPS, dont environ 20 000 à New York. Stéphanie Delaila est directrice exécutive de Little Haiti BK.
Ils sont dans l'incertitude. Il y a plusieurs conséquences. Certains ont déjà commencé à perdre leur travail avec toutes les répercussions économiques qu'on imagine. D'autres qui peuvent encore travailler ont peur de sortir de chez eux.
En cause des patrouilles d'ICE, la police de l'immigration, explique Kirby Joseph de l'association Caribbean Defense.
Même si New York est une ville refuge, on sait qu'ICE est bien présente. Cette semaine, leurs agents ont été signalés partout, y compris dans notre quartier.
Son association organise d'ailleurs régulièrement des séances pour savoir comment réagir face à ICE. Gwendal Lavina, New York, RFI.
Au Brésil, la gauche va investir aujourd'hui son candidat pour la présidentielle d'octobre. Sans surprise, il devrait s'agir de l'actuel président Lula, prêt à 80 ans à briguer un quatrième mandat. Et il fera face en octobre à Flavio Bolsonaro, le fils de l'ex-président Jair Bolsonaro, qui purge en ce moment une peine de prison pour tentative de coup d'État lors de la présidentielle de 2022. En Colombie, la présidentielle, c'était en juin. Elle a vu l'élection du candidat de l'extrême droite, Abelardo de la Espriella. Hezbollah. Ce dernier a promis une lutte acharnée contre les groupes armés et à quelques jours de son investiture, un camion piégé a explosé près de la frontière vénézuélienne à Cúcuta dans la nuit de vendredi à samedi. Ça s'est passé devant le centre de la police du département. 11 personnes ont été blessées, dont des policiers, Najed Ben Rabah.
Ces fortes détonations ont réveillé la ville de Cúcuta vers 3h30 du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Selon la police, le véhicule aurait été abandonné par deux individus avant l'explosion. D'autres détonations, notamment des cylindres explosifs, ont été ensuite signalées près du marché central de la ville. Et des échanges de tirs ont été entendus et filmés par les habitants. Les autorités colombiennes pointent du doigt l'ELN, la dernière guérilla toujours active dans le pays. Une récompense équivalente à plus de 50 000 euros a été annoncée pour toute information permettant d'identifier les responsables. Cet attentat survient à une semaine de l'investiture du président élu, Abelardo de la Espriella, qui a fermement condamné, je cite, ce geste terroriste et affirmant que la violence n'entamera pas la volonté des Colombiens de vivre en paix. Selon plusieurs élus locaux, il s'agirait du troisième assaut visant la police dans la région en moins d'une semaine, alimentant les craintes de nouvelles violences à l'approche du changement de gouvernement. Najed Ben Rabah, Medellin, RFI.
RFI 4h07 à Dakar, au Sénégal, des dizaines de milliers de pèlerins se retrouvent aujourd'hui à Touba, à 200 km à l'est de la capitale, pour le Grand Magal. C'est le plus grand rassemblement religieux du pays, pèlerinage des Mourides, cette confrérie musulmane soufie. Au-delà de la ferveur spirituelle qui l'entoure, ce rendez-vous confirme son rôle de poids lourd économique d'année en année. C'est la conclusion, Pauline Le Troquier, d'une étude présentée cette semaine par l'université Alioune Diop de Bambéry et de l'université Cheikh Amadoul Kadim de Touba.
630 milliards de francs CFA de retombées économiques, c'est l'impact du Grand Magal estimé par l'étude, soit 2,5 fois plus qu'en 2017. La progression vient d'abord de la croissance démographique de Touba elle-même, mais aussi de l'évolution du sens donné à l'événement. Véritable repère identitaire et cultuel pour la jeunesse sénégalaise, le Grand Magal attire plus qu'avant. L'économiste Souleymane Astoudiane a coordonné l'étude.
Le refuge que constitue Serigne Touba chez Amadou Bamba est de plus en plus important. Vu que l'affluence est plus forte, on parle d'une hypothèse de 5 100 000 pèlerins, donc la consommation est plus forte.
Et les retombées dépassent largement les frontières de la cité religieuse. Les services financiers profitent par exemple de la dynamique. Avec l'effet Magal, le chiffre d'affaires des opérateurs de mobile money connaît une hausse d'au moins 60% sur la période. Les premiers gagnants restent toutefois les éleveurs et agriculteurs de tout le pays.
Lors du Magal, il y a plus de 600 000 poulets consommés. On peut le dire également sur les bêtes, les ruminants qui sont sacrifiés. Il y en a au moins 100 000 qui sont sacrifiés durant le Magal. Et donc, ça permet à beaucoup d'acteurs économiques à produire, que ce soit à Chiguinchor, à Tambacounda, à Dakar, pour faire face à la demande du Magal.
Devenu un véritable rendez-vous d'affaires, le Grand Magal confirme d'année en année son ancrage régional en accueillant toujours plus de commerçants maliens, mauritaniens ou encore guinéens. Pauline Troquier, Dakar, RFI.
En cyclisme, la néerlandaise Lorena Vibes prend le maillot jaune. Elle a remporté hier la première étape du Tour de France féminin, première étape autour de Lausanne sur les rives du Léman. Le public suisse très gâté cette année puisque les coureuses vont traverser trois villes, Lausanne donc, mais aussi Aigle et Genève. Anne Dufort-Cornillier suit la course pour nous.
Au village départ, sur la place de la navigation de Lausanne, l'engouement populaire suisse se confirme. Même les stars comme Demi Vollering, la néerlandaise, Marlène Reusser, la Suissesse, en ont les larmes aux yeux.
C'est vraiment très émotionnel de voir ça. Je pleure parce que c'est trop bien. Merci beaucoup pour être ici.
Mais qu'en est-il un peu plus loin, sur les rives du lac Léman, là où défilent les amateurs de course à pied, de vélo ou encore de natation?
Est-ce que c'est une ville idéale pour le tour féminin?
Ouais, franchement, je pense que la route le long du Lavo, etc., est un excellent endroit pour démarrer une étape. Et franchement, je pense que c'est une bonne ville pour commencer.
Bah oui, sur le bord du lac, c'est un joli endroit. Et ça peut être sympa de voir ce genre de choses.
Une curiosité ressentie par les coureuses, acclamée jusque dans la dernière bosse. Un soutien nécessaire pour Océane Maé, la meilleure grimpeuse du jour.
Je sais que les Suisses aiment bien le vélo, mais à ce point-là, je pensais pas. Et on s'est pas ennuyé une seule fois. C'était génial et vraiment merci au public.
public parce que je pense qu'il nous a porté aussi et c'est un peu grâce à lui qu'on est allé si loin.
Après Lausanne, capitale olympique, place à Aigle, chef-lieu de l'Union cycliste internationale, où là aussi, le public devrait être au rendez-vous. Anne Dufort-Cornillier, Lausanne, RFI.
Rendez-vous donc à Aigle tout à l'heure à 12h30, temps universel, pour une arrivée à Genève. Pour l'heure, il est 6h11 à Paris. On poursuit ensemble notre tour du monde de l'actualité. Et on va le faire en musique, avec d'abord un arrêt au Pakistan, où la scène électro se développe peu à peu, dans un pays où l'on écoute surtout de la musique religieuse. Et de plus en plus de femmes, on va le voir, se retrouvent derrière les platines. Les flammes ne gagnent plus de terrain en France, les incendies sous contrôle, mais ils auront ravagé des dizaines de milliers d'hectares. Les pins, ces arbres résineux, n'auront pas aidé à freiner la course des brasiers. On va voir qu'ils ont toutefois d'autres atouts. À suivre également notre chronique Vivre ailleurs sur l'expatriation, retour sur celle réussie du docteur Félix Akio, 50 ans en France, et il s'apprête à passer le relais. Et puis on terminera avec notre pépite musicale. Ce matin, place à une légende de la musique gabonaise et qui se fait de plus en plus rare. On l'écoute tout à l'heure, juste avant le retour de l'actualité africaine. Direction le Pakistan, là-bas, lorsqu'on écoute de la musique, elle est souvent religieuse et occupe une place centrale dans un pays aux valeurs traditionnelles. Mais depuis quelques années, une scène électronique se développe. Elle est encore un peu confidentielle, mais on peut trouver quelques adresses à Karachi, la plus grande ville du pays. Et avec une nouveauté, les femmes passent de plus en plus derrière les platines. Ondine de Gaulle est allée rencontrer ces DJ qui font fi des tabous.
En pleine nuit, dans les environs de Karachi, les basses résonnent sur la plage. Une centaine de jeunes dansent dans une villa face à la mer, éclairée par les stroboscopes. Ici, les invités ont été soigneusement sélectionnés. La fête est clandestine. Aux platines, Kiara. Casque sur les oreilles, la DJ de 23 ans fait monter le rythme. Il y a encore quelques années, les femmes DJ se comptaient sur les doigts d'une main au Pakistan. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer. Mais pour beaucoup, la scène électronique reste associée au monde de la nuit et à la débauche, comme l'explique Kiara après son set.
Comme nous vivons en République islamique du Pakistan, beaucoup de gens ici considèrent la fête comme une activité illicite. Le fait que des filles portent des vêtements courts, que des filles et des garçons se mélangent ou dansent, c'est mal vu. Une partie de la société considère que ces soirées relèvent presque de l'œuvre du diable.
Ces fêtes clandestines sont aussi dans le collimateur des autorités. La police multiplie les descentes au nom de la lutte contre l'alcool, les drogues ou les atteintes à la morale publique. Depuis un commissariat du centre-ville, Seyed Ali Hassan, officier de police, assume cette politique de tolérance zéro.
Ce n'est pas seulement illégal, ce sont des activités démoniaques. Même si ces fêtes sont organisées clandestinement, nous prendrons des mesures.
Pour continuer à faire la fête, un nouveau concept s'est développé ces derniers mois. Les fêtes sobres ou halal, organisées en journée. Dans une rue d'un quartier huppé de Karachi, en plein milieu de l'après-midi, la façade d'un café ne laisse rien deviner. Mais une fois la porte franchie, changement d'ambiance. Des dizaines de jeunes hommes et femmes dansent sur de la musique pop, café à la main. C'est Sarah et Jazz qui mixent aujourd'hui. Pour cette actrice et DJ, ces événements tolérés par les autorités offrent un cadre idéal pour la scène électronique.
Ces fêtes sobres qui se développent sont accessibles à plus de monde. Les gens s'amusent quand même et ça apprend aussi aux gens à ne pas associer systématiquement la musique à la drogue. On voit des femmes DJ qui jouent dans les coffee raves, mais il n'y en a pas beaucoup sur la scène underground parce que ces événements finissent souvent tard. Mais ici, je pense que c'est assez sûr pour les femmes.
Dans un pays où les femmes disposent rarement des mêmes libertés que les hommes, celles qui mixent aujourd'hui sont souvent issues de la jeunesse urbaine anglophone et aisée qui a les moyens de s'affranchir des normes sociales. Ondine de Gaulle, Karachi, RFI.
Le reportage international à réécouter sur notre site internet. Les États-Unis pourraient bientôt imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. Le Sénat a donné son feu vert cette semaine. La Chambre des représentants pourrait aussi le faire dans les prochains jours et valider ce nouveau paquet de sanctions. Les relations entre les deux pays se sont tendues un peu plus ces dernières semaines sur fond de guerre en Ukraine. Certains craignent aussi des risques de prolifération nucléaire, car le traité de désarmement nucléaire entre Washington et Moscou, appelé New START, ce traité donc a expiré en février et ravive des inquiétudes. C'est le sujet
sujet de ligne de défense. Cette chronique signée Franck Alexandre est une rediffusion.
New Start avait été signé entre Washington et Moscou en 2010 pour solder la guerre froide et limiter les arsenaux. Mais ce n'est pas parce que ce mécanisme disparaît qu'il faut nécessairement s'attendre à une nouvelle course aux armements entre Russes et Américains, estime Loïse Fayet, chercheuse et responsable du programme dissuasion et prolifération à l'IFRI.
L'expiration de New Start ne veut pas dire automatiquement augmentation des arsenaux nucléaires russes et américains, peut-être un peu plus de diversification des arsenaux plutôt que l'augmentation des arsenaux nucléaires. Et puis, d'une façon peut-être assez cynique, rappelons que le traité New Start imposait des limitations à 1550 têtes nucléaires stratégiques déployées, c'est-à-dire des ogives en permanence montées sur des missiles. Ça suffit pour détruire plusieurs fois la Terre. Donc, en réalité, qu'il y ait 1500 ou 1700 têtes nucléaires stratégiques, ça ne change pas énormément les choses.
L'expiration du traité marque la transition donc vers un ordre nucléaire moins encadré. Et l'inquiétude vient de l'ambition d'un troisième acteur, la Chine, dont l'arsenal nucléaire est en pleine expansion.
La Chine est passée d'environ 250 têtes nucléaires en 2020 à plus de 600 aujourd'hui. Si la Chine continue sur cette trajectoire, les États-Unis feraient face à deux compétiteurs nucléaires. Donc c'est l'une des justifications derrière cette expiration de New Start sans solution de remplacement. Donald Trump veut trouver un nouvel accord avec la Chine, éventuellement trilatéral, États-Unis, Russie, Russie-Chine. Ça semble assez improbable, parce qu'aujourd'hui, la Chine n'est pas du tout intéressée par des accords de maîtrise des armements, et ça s'inscrit d'ailleurs dans une utilisation, disons, désinhibée de la menace nucléaire, et puis plus largement de la force, comme on peut le voir en Ukraine ou en Iran.
Les puissances régionales non dotées de l'arme nucléaire pourraient rapidement faire bouger leur ligne. Il faudra donc surveiller étroitement la conférence de réexamen du traité de non-prolifération pointé Loïse Fayet.
Là, il y a beaucoup d'enjeux. Si jamais on se rend compte que le traité de non-prolifération nucléaire est affaibli, ça pourrait pousser la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, la Turquie, pourquoi pas, à avancer vers un programme nucléaire militaire. C'est inquiétant, en fait, au niveau du droit international et de la régulation.
La France, seule puissance nucléaire de l'Union européenne, plaide toujours pour un système international de maîtrise des armements. Mais si les compétiteurs n'ont plus de limites, Paris doit-il rester dans une logique de stricte suffisance ou se donner les capacités techniques d'augmenter son arsenal? Lors de son discours à Lilongwe en février dernier, Emmanuel Macron a indiqué qu'il ne communiquerait plus le nombre de têtes nucléaires disponibles en France.
Ligne de défense. Franck Alexandre, cette chronique était une rediffusion. Il y a du mieux sur le front des incendies. Le feu du Var dans le sud-est est stabilisé. Celui de Gironde dans le sud-ouest est fixé. Les habitants évacués continuent de rentrer chez eux au compte-gouttes. En Gironde, notamment, les massifs de pins n'ont pas aidé les pompiers car ces arbres résineux sont un puissant combustible. Ils ont en revanche d'autres atouts. On va le voir avec Florent Guignard dans C'est dans ta nature.
Dans ta forêt des Landes,
my friend, tu me fous les glandes.
Ta forêt,
oui, il suffit d'une étincelle parfois pour qu'un pin prenne feu. C'est à cause de sa résine hautement inflammable, qui est en fait un médicament. Explication de Catherine Laine, enseignante-chercheuse à l'université de Clermont-Ferrand et au laboratoire PIAF qui étudie les arbres.
Cette résine, elle est prête à s'écouler en cas de blessure et elle bouche le trou. Donc en gros, cette résine, c'est un moyen de se défendre, donc éviter l'entrée des pathogènes. Donc cette résine, ces résines, elles contiennent des substances hautement inflammables qui, au moment de l'incendie, en plus, vont produire des substances volatiles qui vont augmenter l'inflammabilité de l'arbre.
Il faut dire que certaines espèces de pins en Méditerranée, comme le pin d'Alep, ont besoin du feu pour se reproduire.
Il faut qu'ils voient périodiquement le feu pour pouvoir libérer les graines de ces cônes. L'arbre disparaît, mais sa banque de graines contenue dans les cônes peut germer sur le sol qui est enrichi par les cendres des arbres qui viennent de disparaître.
Les pins sont parmi les plus vieux arbres apparus sur Terre il y a 300 millions d'années, il y a deux fois plus longtemps que les feuillus, et ce sont leurs feuilles, leurs aiguilles qui les rendent particulièrement résistants à la sécheresse.
Ces aiguilles sont des feuilles très étroites, donc des surfaces d'évaporation assez faibles. les bouches d'aération, hein, les stomates qui sont sur toutes les feuilles de n'importe quel arbre. Ici, sur ces aiguilles, ces stomates sont enfouis dans des espèces de puits qui les protègent de l'air sec, en fait.
Ces aiguilles, elles permettent aussi de résister au froid, mais certains pins ont un truc en plus, Catherine Laine.
Les pins qui sont très résistants au froid, ce sont des arbres qui sont capables de produire des antigels. Donc des petites substances sucrées qui sont injectées dans les tuyaux de l'eau et qui vont en fait abaisser les points de congélation de l'eau.
Les pins, c'est une histoire sans fin.
Papa, pas dans les bois. Papa, pas dans les pins. Quand papa pas dans les bois, quand papa pas dans les pins, il pas les pins seul dans les bois.
La pomme de pin est-elle un fruit ?
Ah, ni une pomme, ni un fruit. Les pins ne font pas de fleurs, ce sont des conifères. Ils produisent des cônes, on dit aussi des pignes. Mais pineapple, en anglais littéralement pomme de pin, c'est bien un fruit. C'est l'ananas, son écorce ressemble à celle d'une pomme de pin. C'est aussi parce qu'une pigne et une grappe de raisin ont un peu les mêmes formes qu'on appelle parfois le vin du pinard. Mais vous pouvez préférer la pina colada, ce cocktail à base d'ananas. En espagnol, pina, ça veut dire ananas, mais aussi pomme de pin.
Il boit du vin n'est pas en vain, car lorsqu'il boit, il trompe son pain, mon papa, à quel repas de rapin, qu'il est heureux dans les pains, mon papa, quand il boit.
C'est dans ta nature, Florent Guignard. Dans notre chronique Vivre ailleurs, on vous raconte ce matin l'histoire de Félix Akio, médecin d'origine béninoise, arrivé en 1977 dans un petit village de l'Indre, dans le centre de la France. À l'époque, la population signe une pétition pour qu'il reste. 50 ans plus tard, à 82 ans, il s'est décidé à prendre sa retraite et raconte son parcours à Corinne Mandjou.
C'est une histoire extraordinaire. J'étais à Dakar et on est venu terminer nos études en France. J'avais fait ma thèse en 76. Et le médecin justement de Saint-Toux est décédé dans un accident de voiture. Et pour remplacer un médecin qui décède, il faut avoir déjà sa thèse. C'est l'une des raisons pour lesquelles les filles de ce médecin sont venues me solliciter pour remplacer leur papa. À cette époque, la patientèle se vendait. Donc leur papa étant décédé précocement, il fallait vendre la patientèle pour donner un peu de sous aux enfants.
Et vous avez acheté la patientèle?
C'est ça.
Vous êtes du coup resté à Saint-Toux?
Exactement. Parce que ces deux filles n'avaient plus d'autres ressources pour continuer à vivre. Et il y avait pas mal de médecins tout autour. Ce qui faisait que si elle ne vendait pas la patientèle immédiatement, les patients de leur papa seraient allés ailleurs. Donc il leur fallait absolument un remplaçant rapidement.
Il y a même eu une pétition dans la localité pour vous céder le cabinet.
Absolument, absolument. Donc j'étais parti que pour un mois. Il devait partir. Il n'avait toujours pas trouvé de médecin. Donc toute la population a fait une pétition et a bien précisé « Nous voulons garder notre médecin noir ». Et je me suis dit que je retourne au Bénin ou que je reste là. Ils soignaient quand même des patients. Puisqu'ils avaient besoin urgemment de moi, il n'y avait pas d'autre médecin, bon, je suis resté.
Aujourd'hui, donc, vous avez 82 ans. Pourquoi avoir travaillé si longtemps ?
Je serais ailleurs ou n'importe où, j'aurais travaillé autant parce que c'était ma passion. Je ne sais faire que ça et j'adore ça. Bon, surtout que je suis libéral. Je ne dépends que de moi-même. Je fais des recherches pour essayer de trouver quelque chose que la médecine conventionnelle ne peut pas guérir. Donc c'est mon but dans la vie. La nature m'a donné une santé comme ça. En remerciement aussi, je me dois de faire profiter aux malades.
Et pourquoi vous vous arrêtez aujourd'hui? Vous passez le relais à un jeune médecin de 30 ans?
Non, je ne passe pas le relais. Un, il y a manque de médecins déjà. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin. Bien sûr, je ne suis pas éternel. Je vais bien m'en aller un jour. Mais comme je fais toujours des recherches, je ne fais pas que la médecine conventionnelle. Je fais l'acupuncture, je fais l'homéopathie, je fais des recherches. Toute médecine a ses limites. Moi, j'essaie de voir ce qu'il peut faire pour compenser ce qui manque à la médecine traditionnelle. Il appelle même médecine intégrative. C'est-à-dire on intègre dans ce qui se passe.
Donc aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus penché vers la recherche et le jeune médecin qui vient travailler avec vous, lui, fera le reste.
Oui, à part que le reste, même indépendamment de tout ça, il n'y a pas assez de toute façon.
Alors, vous avez fondé votre famille à Saint-Toux.
Quand je suis arrivé de Dakar, j'avais un garçon, Stéphane. Maintenant, j'ai 3 autres enfants qui sont nés ici en France.
Quelles ont été vos relations avec l'Afrique et le Bénin pendant toutes ces années?
C'est curieux, la dernière fois que j'ai mis les pieds au Bénin, c'était en 1978. Parce que mes parents sont décédés, j'ai des cousins qui sont morts. Donc, il y a très peu de familles. Mais enfin, je compte y retourner quand même.
Les enfants n'ont jamais peut-être été au Bénin?
Jamais, c'est vrai. Que l'année prochaine, on ira au Bénin pour leur montrer le pays de leur papa.
Félix Akio répondait aux questions de Corinne Mandjou.
RFI.
6h26 à Paris. Dans quelques minutes, ce sera le retour de l'actualité africaine. On s'avance un peu et on part déjà sur le continent. On va se laisser bercer par la voix de Pierre Akenenge. À 83 ans, l'artiste gabonais se fait de plus en plus rare, mais il a accepté l'invitation en avril du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire. Le Gabon était invité d'honneur. La légende Pierre Akenenge est notre pépite musicale ce matin. Il est au micro de Guillaume Thibault.
Oh.